Détour. Quand on voit ça, une affaire comme ça, ça, les couleurs sortent drôlement, là. C'est pas comme... Je sais pas que ça va donner pour la suite, là. Quand on voit ça, souvent, on aime ça, les détours? On est réfractaire un petit peu aux détours, tu sais. Habituellement, on chigne un peu. On y va de reculons un peu. Donc, il y a deux semaines, on a vu le premier thème d'un détour, c'est qu'on a vu que Dieu est fidèle dans les détours. On a vu ça avec le pasteur Joël. Et même si nous autres, on s'appelle des fidèles dans l'Église, hein, c'est ça, on est des fidèles dans l'Église, mais souvent, même si on porte le nom de fidèle, on n'est pas si fidèle que ça. Mais Dieu est fidèle. Puis on a vu la semaine passée avec le pasteur Jocelyn qu'on devait mettre, on était invité à mettre notre confiance en Dieu, que lui est fidèle. Donc, on met notre confiance en lui. Et ce matin, on va regarder ensemble comment grandir dans les détours. Et comment on grandit? Simplement, là, bien, en reconnaissant que Dieu est fidèle, puis en mettant notre confiance en lui. Donc, moi, j'ai fini. Donc, on va le regarder un petit peu. Mais ces deux points-là sont extrêmement importants. Reconnaître que Dieu est fidèle, puis mettre notre confiance en lui. Puis à travers ça, des fois, c'est Dieu qui met des détours dans notre vie avec un but bien précis. Il veut qu'à travers ça, on grandisse. Puis il y a un élément là-dedans que Dieu met. Quand il veut qu'on grandisse, il met toujours un élément comme un genre de test, une évaluation, un check-up, un examen. Il met quelque chose là, pour nous brasser la cage un peu parce que dans son but, il veut nous emmener à grandir. Pourquoi grandir? Pour être encore des... pour que toute la gloire lui revienne. OK, on regarde ça, on commence. Comment grandir dans les détours? Et on va le regarder ce matin à travers la vie du roi Ézéchias. Et je vais mettre la carte ici pour se situer un petit peu, là, parce que, une chance qu'on ne passera pas tout le matin là-dessus, là, mais rapidement, on voit Jérusalem qui est en bas, on voit un peu la Méditerranée, puis si on remonte ça, on s'en va en haut, là, on voit... Ninive et l'Assyrie. Donc, ce matin, ça, je voulais un peu vous situer l'empire d'Assyrie où il était. Donc, il était assez loin de Jérusalem. Et plus, encore un peu plus loin, on voit l'empire de Babylone. Donc, juste retenir un peu ces villes-là, là, ces empires-là, Babylone, l'Assyrie en haut, au nord. Puis, si on descend le long de la Méditerranée, on voit, là, on ne le voit pas ici à l'écran, là, mais il y a tous les royaumes du nord, puis ensuite, Juda en bas. Avec Jérusalem. Et là, l'événement ce matin, l'histoire se situe aux environs de 700 ans avant Jésus. OK, on passe à la suivante. On va parler un peu, si on veut parler d'Ézéchias, on va parler un peu de ses 25 premières années. Alors, ces 25 premières années, j'ai mis un petit texte ici à la prochaine. Ce qu'on voit, c'est que Ézéchias était contemporain avec deux prophètes qu'on connaît bien, Ésaïe, qui écrit beaucoup, et Michée, un autre prophète connu aussi, mais un peu moins que Ésaïe. Et on mentionne que la chute du royaume du Nord eut lieu pendant le règne de son père, le père de Ézéchias, qui était le très mauvais roi Achaz, qui fit fermer les portes du temple, il a barricadé ça, lui, il a arrêté les services au temple, il a arrêté de servir l'Éternel, et s'est mis à construire des autels pour d'autres dieux, pour servir d'autres dieux. Il a même été jusqu'à faire passer ses fils par le feu, en les offrant comme sacrifice humain au dieu Moloch. Alors ça, c'était le contexte un peu dans lequel a grandi Ézéchias. Donc, une belle famille, hein? Tout va bien. Ézéchias grandit là-dedans, toi. Famille modèle à l'époque. Il était roi, la richesse. Servait des dieux, toutes sortes de dieux. Il en a mis un de côté, il a même barré la porte pour être sûr que personne aille voir l'Éternel. Mais il servait d'autres dieux, il allait même jusqu'à offrir ses propres fils. Donc, Ézéchias, qui était un des fils d'Achaz, a vu ses frères, ou il a vu, ou il a entendu parler, ou il a, je sais même pas s'il a assisté à une cérémonie, peut-être qu'un de ses petits frères est offert en sacrifice au dieu Moloch. T'aimerais-tu être dans une famille de même? OK. Prochaine. Ici, bon, là, j'ai fait une image un peu. À l'âge de 25 ans, Ézéchias devient roi. On se rappelle qu'il était dans cette famille-là. Puis là, son père décède. Akaz décède. Et là, Ézéchias devient roi. Pourquoi je mets ça, l'autoroute de même, 120 km/h, on n'a pas encore ça au Québec, là, ça se discute, il y a des endroits qui l'ont dans le monde, hein, 120 km/h. Mais l'idée ici, juste que vous rappeliez que ça va bien, il devient roi. Qu'est-ce qui se passe quand Ézéchias devient roi? La prochaine, j'ai mis la vie d'Ézéchias, on la voit dans trois livres de la Bible, surtout. Dans 2 Rois, je pense que c'est chapitre 18, 19, 20, et dans 2 Chroniques, les chapitres autour des chapitres 30, là, et dans Ésaïe, chapitre 36 à 39, c'est ça. Alors, j'ai pris des passages un peu dans différents livres, et c'est pour ça que je ne vous fais pas tourner, parce qu'on passerait notre temps à... parce qu'il y a beaucoup... j'ai été dans les 3 livres à la fois. Alors, j'ai pris les principaux pour qu'on puisse suivre. Mais les références sont en bas des versets qui sont là. Donc, Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Je mets la limite 120 km juste pour nous indiquer que ça va bien, OK? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Ici, ce n'est pas son père immédiat. On se rappelle, son père, c'est Akaz, puis c'est très mauvais roi. Alors, David, c'est son ancêtre, OK? La première année de son règne. Donc, il a commencé son règne, là, le premier mois, première année, qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir les portes du temple. Et là, il parle aussi au cœur des sacrificateurs et des lévites. Et là, il les convainc de revenir à l'Éternel. Et puis là, il est prêt, puis il leur dit d'ouvrir les portes du temple, les réparer, et de faire le ménage dans le temple pour être capable de rétablir les services. Mais je pense à ça, comment qu'Ézéchias, qui a grandi dans une famille, on pourrait dire quasiment pourrie là, au niveau spirituel, c'était le cas, où ton père offrait des sacrifices vivants à ses frères, au dieu Moloch, comment est-ce qu'il a pu virer de bord de même? J'ai fouillé. La seule chose que je peux voir un peu, c'est que Ésaïe était contemporain avec Ézéchias. Tu sais, quand tu es dans la royauté, les prophètes aussi, ils avaient accès un peu à la royauté, ils étaient proches, autour, gravitaient autour. Donc, possiblement que Ézéchias a été influencé par Ésaïe. Mais chose certaine, je n'ai pas la réponse officielle, peut-être toujours, je pourrais vous le donner à un moment donné. Mais chose qu'on observe, c'est qu'il y a eu un virement complet. Il a fait complètement le contraire de ce que Akaz, son père, faisait. Complètement le contraire. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son ancêtre. La première année, il ouvre les portes de la maison et il les répare. Et ensuite, prochain, le roi Ézéchias se leva de bon matin. Il assembla tous les chefs de la ville, donc les principaux de la ville, les dirigeants. Il monte à la maison de l'Éternel, il commence à offrir des sacrifices. 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux, 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Ézéchias, il avait un cœur. Il en a parlé à ses proches qui dirigeaient la ville avec lui, le royaume de Juda. Et là, il les influence et puis il les embarque avec lui pour qu'on puisse offrir des sacrifices. Donc, il part le bal, il fait les premiers pas comme dirigeant, OK? Et là, ce qui s'ensuit, c'est que, dans le fond, comment l'Assemblée, comment le peuple a répondu? On le voit ici, dans ce verset-là, le nombre des holocaustes offerts par l'Assemblée à la suite de l'exemple de lui et des principaux de la ville, ça a été de 70 bœufs, 100 béliers, 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Donc, c'est des chiffres, c'est gros, mais ce que ça signifie, c'est que le peuple a répondu. Ézéchias lance l'invitation au peuple de revenir, de se reconsacrer à l'Éternel. Et plus que ça, si on voit la prochaine, plus que ça, Ézéchias, dans son zèle à vouloir servir l'Éternel, dans la flambée qui est là, il va se mettre à écrire, à envoyer des messages par des messagers à tout Israël, donc tout le royaume du Nord qui était en chute libre, qui était en train de se faire envahir par d'autres peuples, par la Syrie. Donc, il envoie des messagers à tout Israël et à Juda, et il leur écrit des lettres aussi à Éphraïm et à Manassé pour les inviter à ce qu'ils reviennent à la maison de l'Éternel pour célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, Dieu d'Israël. Donc, la Pâque, ça faisait des années que ça avait été, le temple avait été barré par son père Akaz. Donc, il ne se faisait plus de service au temple, il ne se faisait plus, la fête de Pâque ne se faisait plus. Et là, il envoie des invitations, même au-delà de son propre peuple, de Juda, il va même tout Israël. Et qu'est-ce qui arrive? Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu. Donc, il y a eu une fête énorme. D'habitude, Pâques, ça dure 7 jours. Mais là, il y avait tellement de sacrifices à offrir. La population était tellement dans l'enthousiasme à célébrer l'Éternel que 7 jours, ils n'avaient pas assez. Ils ont décidé d'augmenter ça à 14 jours. Ils ont doublé la fête. Et là, c'était ce que les Écritures nous disent, la plus grande fête qui se soit faite de Pâques depuis Salomon. Et c'est quelque chose. Les prochaines. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Ézéchias était zélé pour son Dieu. Il était enthousiasmé à servir Dieu dans le service du temple et aussi dans la loi et les commandements de Dieu. Il était vraiment consacré. Ici, j'ai mis un peu une illustration pour revenir à notre autoroute. Ézéchias, il roule comme ça sur l'autoroute que Dieu met devant lui pendant les 14 premières années de son règne. Tout va bien. La limite, 120 km, la belle autoroute. Dieu le bénit et Dieu lui donne beaucoup de prospérité pendant son règne. Il accumule des richesses. Tout va bien dans son règne. Ça va super bien. Tu sais, quand tu roules sur l'autoroute, nous autres, on roule 100 km, on ne va pas à 120, là, mais imagine à 120, c'est encore mieux, une belle autoroute, puis hey! OK. Ensuite, oups! Tout à coup, je ne sais pas si... Aïe, aïe! Là, la vitesse, limite de vitesse vient de changer. Une voie de service, un détour. Puis toi, dans un détour de même, ça te prend 4x4 ou ben non, un tank, c'est encore mieux. C'est quelque chose, là. Qui aimerait ça aller dans un détour de même? Moi, en préparant ça, cette nuit, là, des fois, on prépare des affaires. Quand j'ai mis la photo, cette nuit, j'ai rêvé à ça. J'ai rêvé que je mettais, avec mon auto, qu'il y avait une route de même, mais t'as pire que ça. Je sautais là, les 4 heures dans les airs, je retombais, puis des méchantes affaires, j'ai dit, incroyable. Mais une chance, je me suis réveillé, puis ça allait mieux, là, c'était correct. J'étais encore dans mon lit. OK. Donc, Ézéchias, il roule. Pendant 14 ans, tout va bien. Tout d'un coup, au palais, imprévu. Premier détour, Ézéchias est attaqué par la Syrie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain quand même. Tu sais, des fois, il y a des détours dans la vie que tu t'en vas, tout va bien. D'un coup, bang, ça arrive. Tu es surpris. Mais ici, Ézéchias, quand même, il n'était pas fou. Le roi, il a vu tout le royaume du Nord envahi par la Syrie. Il voyait quand même que ça s'en venait. Là. Lui, il était plus au sud, mais t'sais, quand même, un roi allumé un peu, là. Il dit, ça s'en vient, ça chauffe, OK? Même si ça va bien, 120 kilomètres. Maintenant, il y a des cartes qui arrivent, oups, travaux dans 10 kilomètres. Donc, tu continues. Oups, travaux dans 5 kilomètres. Tu continues. 3, 2, 1, tu vas arriver une série de cônes orange, là. Ouh, ça s'en vient, on est dedans. OK. Après ces choses, donc tout va bien, acte de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda, donc il arrive dans le royaume du sud, et là, il assiège les villes fortes dans l'intention de s'y en emparer. OK, Ézéchias, tint conseil avec ses chefs et ses hommes, vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville. Ici, Ézéchias, un roi sage, prévenait que durant ses 14 premières années, tout va bien. Alors, il était prévenant. Les sources d'eau, c'était, il y avait une source qui coulait dans un ruisseau qui amenait l'eau à Jérusalem, qui était une ville fortifiée. Alors, lui, il s'est dit, si l'ennemi arrive, parce que l'ennemi, la tactique à l'époque, c'était d'encercler la ville puis de l'assiéger pour qu'il manque de ressources. Mais il dit, là, il y a de l'eau qui coule là, on va cacher la source, on va creuser un canot souterrain, une conduite souterraine, jusqu'à l'intérieur de la ville de Jérusalem, puis on va avoir de l'eau, nos limites. Fait qu'il fait creuser ça, puis on a découvert, au début des années 1900, ce canot-là qui mesure un demi-kilomètre de long, donc assez long, de la source, je pense, de Guillaume? C'est ça. Cette source-là, et là, l'eau coule dans ce réservoir souterrain-là jusqu'au réservoir de Siloé, et là, il peut abreuver toute la ville de Jérusalem. À la cachette, il n'y a rien qui paraît, il y a même des caniveaux qui vont jusqu'à 18 mètres souterrains dans le roc. C'est assez gros, un homme peut marcher dedans. Alors, c'est ce que le roi fait, et le roi est prévenant. Il fait aussi, c'est une ville fortifiée, donc il y a des murailles, il y a des tours avec des murailles. Les murailles, avec le temps, ils s'étaient laissés à l'abandon. Lui, ils ont réparé, puis ils ont rehaussé jusqu'à la hauteur des tours. Ils ont mis encore plus haut qu'il était au début. Puis comme c'était passé, il fait construire un deuxième muraille plus loin pour empêcher l'ennemi encore, pour le ralentir. Il met un obstacle de plus. Et il fait construire à Jérusalem des entrepôts de nourriture incroyables. Il y avait de la nourriture en réserve. Fait que là, il y avait tout. Il y avait de l'eau, de la nourriture, des murailles super fortifiées. Il a tout fait ce qui est humainement qu'un bon roi sage, là, un bon administrateur pour protéger sa ville contre l'ennemi. Bon roi, hein, c'est bon. C'est mauvais, qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est sage, je trouve. C'est prévenant. Un bon roi. OK. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, qui était une ville que le roi d'Assyrie avait conquérie, « J'ai commis une faute. » Ézéchias, c'est un moine net. Il crie ça, « J'ai commis une faute. » « Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je vais le supporter. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du roi. Qu'est-ce que Ézéchias vient de faire là? Il vient de tendre la main à l'ennemi, il vient de faire un compromis avec son ennemi, il lui donne de ses biens, il lui offre un tribut. Autrement dit, il vient de baisser les bras et il vient d'abdiquer là, devant l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi répond? Les serviteurs de Sanchérib, qui était le roi d'Assyrie, parlèrent encore contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Et il envoya une lettre, donc le roi d'Assyrie envoie une lettre insultante pour l'Éternel, pour le Dieu d'Israël, en exprimant ainsi contre lui. Voici ce qu'il lui dit dans la lettre un peu, là. « De même que les dieux des nations des autres pays n'ont pu délivrer leur peuple de ma main, de la même manière, le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de ma main. » Autrement dit, sans terrible, là, il y avait une lettre de bêtises d'insultes, il dit « Moi, là, j'ai conquéri toutes les autres villes. Là. Il y avait des dieux, ah ouais, donc, Mazin des dieux. Moi, là, il n'y a pas un dieu qui a été capable de m'arrêter. J'ai conquéri leur ville pareil. C'est pas ton dieu, là, hein, l'Éternel, qui va m'arrêter. Je vais faire la même chose que j'ai faite avec les autres. Je vais les conquérir. Qu'est-ce que Ézéchias fait avec ça, ces insultes-là? Et là, ils sont... sont tout près de Jérusalem, là. Sont devant les murailles. Toute l'armée, la puissante armée d'Assyrie est là devant les murailles de Jérusalem en train d'insulter le peuple, d'insulter le Dieu d'Israël, l'Éternel Dieu. Il lançait des affaires, là. Il se promenait devant la muraille, puis là, il voyait les soldats en haut de la muraille. Il leur disait... « Vous allez manger vos excréments, puis vous allez boire votre urine. » Puis ils insultaient là, à la limite, là, parce qu'ils savaient qu'à force des assiégés, il allait manquer de nourriture, il allait manquer d'eau. Puis... Qu'est-ce que Ézéchias va faire? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et il la déploya devant l'Éternel. Il a pris la lettre d'insulte de bêtise qui s'adressait à son Dieu. Et là, il va la déposer au temple devant l'Éternel Dieu. Et là, il vient aussi avec Isaïe, le prophète Isaïe. Puis ils se mettent les deux ensemble. Ils se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent au ciel, crièrent à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur épreuve, dans ce détour incroyable, dans cette pression qui était là? Ils sentaient l'envahisseur. Là, c'était fini. C'était quasiment évident là, que la destruction allait venir. Là. Et là, il part avec la lettre d'insulte. Il va mettre ça devant l'Éternel. Puis il se met à prier. Deux personnes, Ézéchias, Isaïe, courbés devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? L'ange, la prochaine chose, l'ange de l'Éternel sortit dans la nuit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand ils se levèrent le matin, voici, ils étaient tous morts. Dieu a répondu ici, rapidement, dans la nuit, une armée nombreuse qui est là. Ils se réveillent le matin, 185 000 hommes, le cœur leur arrête. Ça n'a pas fait mal dans leur sommeil, mais ils ne se réveillent pas. Dieu est souverain au contrôle de tout. C'est lui qui fait battre ton cœur. Et quand il décide que ton cœur arrête de battre, il arrête de battre. 185 000 personnes, poup, plus de signal. Ils se sont levés le matin, là, quand ils ont vu ça, là, ils ont ramassé le petit. Là. Ils n'ont même pas essayé de tirer une fléchette. Là. Ils ont tellement shaké qu'ils sont repartis dans leur pays au plus vite. Puis même en arrivant dans leur pays, Sanchérib, en arrivant là, ses deux propres fils, l'assassinent. Ça ne va pas bien dans le camp de l'ennemi. Mais Dieu avait répondu ici d'une façon puissante, très puissante et rapide. OK, on va voir le deuxième détour. Mais dans les détours ici des écarts, on les présente, je vais les présenter un peu comme si c'était un détour après l'autre. Mais en réalité, ces détours-là, Ézéchias, il les vit un dans l'autre. Il y a un détour, là, il est en train de faire un détour, il n'a pas fini son détour que, whoop, il en part un autre détour. Puis, Puis là, dans l'autre détour, il y a un autre détour. Les trois détours sont comme imbriqués les uns dans les autres. Mais oh, ça a été bien pendant 14 ans. Faut se rappeler. Dans son cas, lui, les détours sont bang, 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 un arrêt de l'autre, un dans l'autre. Deuxième détour, Ézéchias tombe gravement malade. En ce temps-là, et dans le même temps qu'on parle, dans le même détour, là, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Mais Ézéchias, il avait quel âge? 39 ans, il est venu, il a commencé à régner à 25 ans. Il a eu 14 ans de pas de problème. Dieu le bénit pendant 14 ans. Et là, à l'âge à peu près de 39 ans, 40 ans peut-être, bang! Ésaïe arrive et lui dit, « Prépare tes petits, fais ton testament, donne tes dernières directives, tu vas mourir. » Et là, Ézéchias tourne son visage contre le mur. Il fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Comprenez pas, là, que dans la fleur de l'âge, 40 ans, là arrive Isaïe, le prophète, il dit, « Prépare-toi, tu vas mourir, c'est fini, là. Tu meurs, c'est fini. » Il y avait un ulcère, il était couché, il ne pouvait plus se relever. C'était final, là, c'est fini. Prépare tes affaires, là, c'est fini. Tu sais, quand tu arrives à la limite, une limite comme ça, là, un détour aussi fort que ça, que là, il est question de vie ou de mort, il te reste X temps à vivre, tu as un deadline, là. Sais-tu que ça vire ici? Tes priorités, là, sont plus les mêmes, tu sais. Tu penses vraiment à ce qui est essentiel. Tu parles à tes proches, tu ne veux pas parler à celui que tu as connu dans un camp il y a 10 ans, là, il est loin, là. Mais tu penses à tes proches. Tu penses à ce qui s'en vient. Tes priorités changent. Et c'est là qu'on voit le vrai cœur de l'homme. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond du cœur? Des fois, ça se révèle à travers des événements extrêmes comme ça, comme une fin de vie. Et ici, Ézéchias était dans une fin de vie. Et là, il répandit d'abondantes larmes devant l'Éternel. Il ne comprenait pas ce qui arrivait. Et là, Ésaïe, qui vient de lui annoncer la nouvelle, il sort du roi, où il était avec Ézéchias, il s'en va dans la cour, il était rendu à moitié de la cour. Il n'était même pas parti, là. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans le milieu de la cour. Alors, lorsque la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces termes, « Retourne et va dire à Ézéchias, chef de ton peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel et j'ajouterai à tes jours 15 années. » Wow! Ça, c'est une belle réponse. J'ajoute 15 années à ta vie. Donc, tu as guéri 15 années à ta vie. Ézéchias avait dit à Isaïe, mais ouais, 15 années à ma vie. Ouais, mais là, il était couché sur un lit, puis dans 3 jours, il devait monter au temple. Mais là, il était couché sur un lit en train de mourir, là. Il dit, là, tes affaires, là, tu sais, 15 ans. Donne-moi un signe. C'est quoi, à quel signe que je vais savoir que ce que tu dis est vrai, que ça vient vraiment de Dieu, que c'est vraiment la parole de Dieu? Je veux un signe. Moi, j'en ai demandé un signe une fois dans ma vie. C'était pas un gros signe, là. C'était pas une grosse affaire, c'était bien évident. Mais je l'ai pas eu. Mais c'était pas gros, vraiment. C'était rien par rapport au signe ici qu'il demande. Isaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Il donne même un choix. Tu as le choix, Ézéchias, choisis. Tu sais, il y avait le père d'Ézéchias, Akab avait fait construire un genre de cadran solaire, un genre de marche. Puis là, quand le soleil se levait dans la journée, mais l'ombre avançait sur les marches. Puis là, ça donnait l'heure de la journée. Fait que là, tu sais, ça avance dans ce sens-là. Fait que là, il dit, ben, si Dieu fait avancer l'ombre plus vite, ben, c'est bon, mais tu sais, même Dieu est capable de faire plus que ça. Moi, je veux qu'il recule l'heure. Qu'il recule l'ombre au lieu de l'avancer. Méchante demande. Moi, j'ai demandé, c'est bien, bien petit, c'est bien moins compliqué que ça, là. Bien moins. Je n'ai même pas eu. Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'homme avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule. » Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, et qui fit reculer l'homme de 10 degrés. Mon doux! Imagine-toi, faire reculer l'ombre. Le soleil qui est là, c'est gros, le soleil, ce qui tourne autour, tout le système planétaire, tout se tient dans, je ne sais pas ceux qui ont fait de la physique un petit peu, là. Il y a des lois qui gèrent tout ça, là. Puis tu ne peux rien déplacer, là, parce que, écoute, mais là, le soleil, tout ça, là, il s'en va de même. Il faut les breaks. Là, il faut qu'il revienne à l'envers. Là, il faut encore les breaks, mais il faut qu'il reparte de l'autre bord. Scientifiquement, là, impossible. Complètement impossible. Il y a tous les spécialistes qui vont vous dire, tu peux pas, il n'y a rien qui peut bouger de là, là. Mais Dieu a permis ça. Comment il a fait? Je sais pas. Moi, il aurait pu faire mon petit affaire, j'ai demandé, il aurait pu le faire des milliards de fois. Mais là, cette grosse affaire-là, il l'a faite pour Ézéchias. Mais, il t'arrive ça dans ta vie, tu as une affaire de même que Dieu au. Tu sais, ma fille, une fois, là, je n'en ai pas parlé, des fois, elle aime ça que j'y demande la permission avant. Elle veut-tu pas, je ne sais pas. Mais une fois, elle a demandé des signes de même. Hein, Léonie? Tu as demandé un signe, Léonie? Elle m'a demandé, c'était par rapport dans le ciel, là, des comètes, là, tu voyais des comètes, puis tu avais dit, avec d'autres filles, tu avais dit, tu étais dans un camp, tu avais dit, 1, 2, 3, je veux voir une comète. C'est ça? Hein? Une étoile filante. Tu avais dit, mettons, dans 1, 2, 3, je veux une étoile filante. Puis là, elle a fait 1, 2, 3, pouf! Elle veut une étoile filante. Ben, elle dit, hey, les filles, t'as tout énervé là, dans le camp. Là, l'autre étape, c'était quoi? C'était 1, 2, 3, 2 étoiles filantes. Elle demande ça. 1, 2, 3, 2 étoiles filantes. Il arrive, 2 étoiles filantes. C'est vrai? Hein, oui. Qui se met Ézéchias. Mais, redemandez encore, ça va-tu arriver s'il redemande encore? Moi, j'ai demandé une petite affaire bien moins compliquée que ça. C'était même pas des étoiles filantes, moi, là. C'était très, 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 très simple. Puis, je l'ai pas eu. Bon. Mais Dieu, il répond pas pareil pour tout le monde. Il y en a. Comme avec Léonie, il répond. Moi, il répond pas. Ézéchias, il arrête le soleil. C'est différent avec chacun. Troisième et dernier détour. Il y a de quoi que Dieu aime pas ou de la misère à avaler. C'est quoi? L'orgueil. Dieu fait grâce aux uns, mais il résiste à l'orgueilleux. Ben, c'est peut-être pour ça que dans mon cas, moi, il pourrait pas. Non, mais je suis pas bien orgueilleux, là, mais une petite affaire. Tu sais, mais je veux s'améliorer beaucoup selon ma femme, mes filles, mais en tout cas, si vous voulez prier pour moi, je vais tout prendre des prières pour mon orgueil. Ben, de la misère avec ça, mais bon. Mais ici, notre Ézéchias, en ce temps-là, Merodach Baladan, fils de Baladan, redites-moi ça, là, Merodach Baladan, fils de Baladan, c'est ça que j'ai dit, c'est ça, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias. Il a envoyé un cadeau à Ézéchias avec une délégation, parce qu'il avait appris par rapport à sa maladie, puis par rapport aussi peut-être au fait que les 185 000 morts, ça s'est répandu cette nouvelle-là. Là. Le soleil qui arrête sa maladie, qui était à l'article de la mort, puis 15 années de plus, tout ça, ça s'est su. Donc, il apprend ça, puis lui, Babylone, c'est encore plus loin que la Syrie. Il apprend ça, donc il décide d'envoyer une délégation avec des cadeaux à Ézéchias. Ézéchias était très content, il a eu de la joie. Puis là, il montre à la délégation tout ce qui était dans sa maison. Toutes les choses de prix, d'argent, d'or, les aromates, l'huile précieuse, tout son arsenal de guerre et tous ses plans de guerre et tout, il montre tout ça à l'ennemi. Et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fasse voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Oh! Dieu avait répondu puissamment dans la vie d'Ézéchias. Il avait intervenu au niveau quand toute l'armée était là, 185 000 morts. Il était malade à mourir, Dieu le guérit. Il rajoute 15 années à sa vie. Le signe incroyable qu'il fait au ciel pour lui. Et là, Ézéchias, Dieu l'abandonne pour l'éprouver, pour voir, pour connaître ce qu'il y avait dans le fond de son cœur. Dans le fond, Dieu savait ce qu'il y avait dans le cœur d'Ézéchias, mais il voulait que Ézéchias se rende compte de son cœur, de ce qu'il y avait dans son cœur. Et Dieu permet des fois des détours comme ça dans nos propres vies. Pourquoi? Pas juste parce qu'il s'ennuyait au ciel, puis il dit, « Tiens, je vais y faire un détour, celui-là, check le bien aller. » Non, il veut te faire grandir. Il veut t'emmener plus loin. Il veut que tu reconnaisses dans ton cœur, il y a quelque chose qui accroche, il y a quelque chose qui déplaît à Dieu dans ton cœur. Puis Dieu, il veut te le révéler à toi. Pourquoi? Pour que tu l'abandonnes, pour que tu, avec son aide, que tu puisses avoir la victoire. Comme il a fait avec Job. Job, qui était... As-tu vu mon fils Job, comme il est parfait, comme il est... Tu sais, wow! Quel homme de Dieu, Job! Mais là, le diable est arrivé et il dit, « Wow, 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 ça va bien, tu le bénis, puis c'est sûr que ça va bien pour lui. Enlève-y ce qu'il y a, tu vas voir, il va te maudire. » Le Dieu a donné une permission spéciale. Il a dit à Satan, « OK, je te laisse, mais touche pas à sa vie, puis touche pas. » Tu sais, il a mis des restrictions. Mais Job a continué à louer Dieu à travers tout ce qu'il y a eu. Mais dans la dernière épreuve, je te dis que Dieu a permis, ça a été assez long son épreuve à Job. Mais Dieu, ce que Dieu voulait faire, c'est gratter plus loin, aller voir dans son cœur qu'est-ce qu'il y avait. Et il y avait quelque chose dans le cœur de Job. Et Job, à un moment donné, c'est le reconnu. Et là, Dieu l'a béni et Job a grandi. Et Dieu l'a béni, il a donné au double de qu'est-ce qu'il y avait. On revient à notre Ézéchias ici. Ézéchias qui dit tout ce qu'il y avait dans sa maison, il monte tout à l'ennemi. Et là, Dieu l'abandonne, dans le sens que Dieu l'abandonne, juste comprendre plus, Dieu l'abandonne. Dans le fond, Dieu, il a fait un pas en arrière un petit peu par rapport à Ézéchias. Ézéchias s'en allait dans une direction orgueilleuse. Dieu n'allait pas le bénir là-dedans. Donc, il prend un petit recul. Il est là quand même, mais avec un petit recul, dans le sens qu'il n'approuve pas nécessairement ce que Ézéchias est en train de faire. OK. Plus loin. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias. Il lui dit, « Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens-là, là? D'où sont-ils venus? » Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit, « Hein, qu'ont-ils vu de ta maison? » Ézéchias répondit, « Ils ont tous vu ce qui était dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Et ce que tes pères ont amassé jusqu'ici, jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Des eunuques, c'est le gars qui s'occupe du harem du roi, mais il y a une condition dans son contrat. Il faut qu'il y ait une petite opération chirurgicale. Il faut qu'il soit castré. N'as-tu gros qu'il voudrait être eunuque et des pas ouverts? C'est bien payé, par exemple. Tu vis... Non, mais c'est vrai, c'est une belle job. Pierre, tente pas? Non? C'est drôle, des hommes, des fois, il y a des petites parties de notre corps qu'on tient quand même, je sais pas. On tient pareil. Hein? Des belles jobs. OK. OK, on est ici. Donc, Ézéchias, il s'enorgueillit. Puis Dieu lui dit par le prophète Ésaïe que tout ce qu'il a montré, là, ça va tout partir, ça va s'en aller à Babylone. Même son fils va être emmené à Babylone, et puis là, il va servir comme eunuque à Babylone. Aïe, aïe! Et là, on ne le verra pas là, dans les passages, mais Ézéchias, que Dieu a béni durant toute sa vie, qui a répondu puissamment avec des réponses extraordinaires, comme on a vu. Et là, ici, Ézéchias va entrer en lui-même, il va finir par reconnaître son orgueil. Et là, Dieu va lui faire une grâce particulière. Ce qu'il a dit par le prophète Ésaïe, il ne l'accomplira pas dans la vie d'Ézéchias. Il va le laisser jouir de son 15 ans, parce qu'il a donné un 15 ans de répit. Hein, il a étiré sa mort de 15 ans, son deadline. Et là, durant ses 15 années de sursis, Dieu n'interviendra pas. Donc, ce qu'il a dit ici, que toutes ses richesses allaient être emmenées, ça n'arrivera pas durant le règne d'Ézéchias. Même chose pour ses fils qui allaient être emmenés à Babylone, ça n'arrivera pas. Dieu, dans sa grâce, a reconnu le cœur d'Ézéchias. Il lui fait cette grâce-là. Il va finir ses jours en paix dans son royaume. Et là, pendant ses 15 années de répit comme ça, à la troisième année de son répit, il y a un petit bébé qui arrive, qui s'appelle Manassé. Et Manassé, il grandit, il voit son père âgé, il voit la belle famille qui est là, qui servent l'Éternel avec enthousiasme. Et là, Manassé, à l'âge de 12 ans, son père décède. Ézéchias décède en paix, comme Dieu avait donné son 15 ans, il a fini son 15 ans. Et là, Manassé devient roi. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et la parole de Dieu nous dit, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu. » Là, je mets des tranches là, pour résumer, pour aller plus vite. Il fait passer ses fils par le feu. La même chose que son grand-père Akaz avait fait. Il avait fait, vous vous souvenez? Akaz, qu'est-ce qu'il avait fait, le père d'Ézéchias? Il avait fermé les portes du temple. Il avait fait des sacrifices. Il offrait ses propres enfants en sacrifice au dieu Moloch. Eh bien, ici, Manassé, il prend les traces, pas de son père, mais de son grand-père. Il fait tout le contraire de ce que faisait son père. Alors, l'Éternel fit venir contre eux, son royaume, les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et l'amenèrent à Babylone. Ils l'ont conduit à Babylone. Ça devait-tu virer dans sa tête? Parce que il avait certainement entendu parler des prophéties d'Ésaïe par rapport à ce qui allait s'en venir pour Jérusalem, que tous les biens du royaume allaient être emportés à Babylone, et même que ses fils, donc lui était fils d'Ézéchias, qui allait être emmené à Babylone pour faire quoi là-bas? Être eunuque. Fait que lui, il faisait le voyage, là. Il était dans les chaînes, les fers. Puis le voyage, c'était long, hein. C'était très, très, très long, là, s'en aller jusqu'à Babylone. Ça devait-tu, le petit hamster, il devait-tu marcher ici? Dans les fers, les chaînes. Là, il savait qu'il s'en allait à Babylone. Ça avait déjà été une prophétie qui était entre. Il réalisait, là, que c'était en train de se produire. Puis là, qu'est-ce qu'il attendait à Babylone? La belle job avec la petite opération. La parole de Dieu ne nous dit pas si Manassé a eu l'opération, mais ça nous dit qu'il s'est en allé à Babylone. Puis là, Babylone, il a été quelque temps là-bas. Puis, la dernière point, lorsqu'il fut dans la détresse, Manassé, il implora l'Éternel, son Dieu, tout d'un coup. Et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem, dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Et là, dans la vie de Manassé, il y a eu un virement. Manassé, c'était un très mauvais roi, mais là, à son retour de Babylone, on ne sait pas s'il a été eunuque là-bas ou pas, mais ce qu'on sait, quand il est revenu, il y a un changement complet dans sa direction, dans sa gouvernance et dans son Dieu. Il a toute défait ce qu'il avait fait dans la première partie de son règne. Il a tout, puis il s'est consacré à l'Éternel, mais il a fait tellement il avait tellement versé de sang et fait de mal, mais il a travaillé tout le reste de sa vie avec Dieu à réparer tout ce qu'il avait fait dans la première partie de sa vie. Et Dieu restaure. Et Dieu fait des choses incroyables, comme il a fait dans la vie d'Ézéchias, comme il a fait dans la vie de Manassé. Il a fait faire tout un détour. Il l'a amené à réfléchir à ce qui l'attendait. Et là, des fois, Dieu permet ces détours-là, permet qu'on arrive devant des choses incroyables pour nous amener à réfléchir aux vraies choses. C'est quoi tes vraies priorités? C'est quoi les choses à laquelle tu tiens le plus? C'est qui ton vrai Dieu, là? Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas quitter cette terre? Et Dieu veut nous amener à ces réflexions-là, veut nous amener à se consacrer à lui. Et quand il nous fait faire des détours, c'est toujours pour notre plus grand bien. Il veut que l'on grandisse, puis il veut qu'on le grandisse pour que lui, que toute la gloire lui revienne à lui, qu'on n'en garde rien, qu'on n'ait pas aucun orgueil. Comme quand Ézéchias expliquait devant toute la délégation de Babylone, c'est comme s'il prenait la gloire sur lui. C'est pour ça que Dieu n'a pas aimé ça. C'est comme si il a vaincu l'armée. Mais oui, mais il n'a rien fait. Hein. C'est tout Dieu qui a donné la victoire. Dieu veut qu'on ne prenne pas pour nous les bénédictions qu'il lui donne. C'est lui qui les donne. Toute la gloire doit lui revenir à lui. Dieu veut que l'on grandisse dans nos épreuves. Il veut nous bénir, mais il veut quand on se tourne vers lui, qu'on lui rende toute la gloire. Je vais inviter ici l'équipe d'adoration, puis on va terminer. Je vais inviter aussi les pasteurs et leur épouse à venir en avant. Ceux qui aimeraient s'approcher pendant le chant et après pour prier, vous êtes les bienvenus. Alors, j'invite les pasteurs et leur épouse à s'avancer, puis à l'équipe d'adoration de venir. Bon Papa du ciel, Seigneur notre grand Dieu, Seigneur Jésus, toi qui nous aimes tant, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais les détours qui sont dans nos vies, toi qui connais les impasses qui sont dans nos vies, qui connais nos inquiétudes, nos fardeaux. Il y a toutes sortes de choses qui sont dans nos vies. Tu les connais et tu veux t'en servir pour nous faire grandir. Tu veux qu'on te reconnaisse que tu es fidèle. Tu veux qu'on place notre confiance en toi. Tu veux qu'on grandisse en toi. Tu veux nous faire grandir. Mais tu veux qu'on s'approche de toi dans l'humiliation, dans la confiance en toi, sachant que tu es gracieux. Tu es un Dieu qui nous fait grâce, qui nous aime tellement, qui veut qu'on soit avec toi pour l'éternité. Mais tu veux qu'on grandisse en toi, dans ta connaissance, qu'on grandisse dans nos expériences avec toi. Tu veux qu'on se confie en toi. Seigneur Jésus, combien tu aimes qu'on vienne placer, un peu comme le roi Ézéchias s'est fait, avec une lettre de problème. Tu veux qu'on vienne avec nos problèmes, nos inquiétudes et tous nos fardeaux. Tu veux qu'on les dépose au pied de ta croix, qu'on te fasse confiance, que tu les as vus, que tu as vu nos larmes et que tu prends plaisir. Combien tu nous aimes, Seigneur Jésus. Amen.